Alors on va ouvrir d'abord la Bible, 2 Chroniques, chapitre 27. Une fois que vous y serez, on prendra la chronologie, on va se replacer et vous présenter ce qui va être vu ce soir. Et déjà vous allez voir la visibilité jusqu'à la fin de la chronologie. Donc, une fois que vous êtes à 2 Chroniques, chapitre 27, vous mettez la Bible de côté. Donc sur la chronologie, on est toujours là dans la royauté de Juda. Et donc on s'était amusé à donner à chaque fois à peu près un titre significatif au roi. Hein. Et donc la semaine dernière, on avait vu 3 rois. Ou 2 rois, je ne sais plus. 3, hein. On avait vu Joas, qui était, lui, arrivé à la royauté à l'âge de 7 ans. Et j'avais dit que sa caractéristique, c'est que c'était un roi enfant toute sa vie. Parce que tant qu'il y avait Jéhojada à côté de lui, il allait bien. Une fois que Jéhojada est mort, livré à lui-même, il s'est complètement détourné du Seigneur. Donc ça a été Joas, c'est l'enfant roi toute sa vie. Après, on a vu qu'il y avait Amadzia. Donc lui, sa caractéristique, c'est qu'il avait un cœur partagé. Son cœur n'était pas entièrement consacré à l'Éternel. Et on s'est aperçu que quand le cœur est partagé, il finit par tomber du mauvais côté. Et puis on avait vu la dernière fois Ozias. Donc lui, c'est celui qui un roi qui était puissant. Militairement, il était très puissant. Mais on avait vu aussi que son cœur s'était élevé. Donc ça, c'était le roi puissant. Et là, en fait, quand vous voyez la chronologie, après, vous avez une succession de noms. Et là, Juda va connaître une succession assez particulière. Parce que jusqu'à maintenant, on peut dire quand même que les rois de Juda étaient plutôt fidèles, mais ils avaient tous, on va dire, une faiblesse, un manquement. Voilà, ils étaient fidèles, mais... Et après, il y a une succession. Vous avez Jotham, Akaz, Ézéchias, Manassé, Amon, Josias, une succession de petits rois à la fin. Et là, en fait, l'histoire de ces rois, c'est une alternance de bons, puis de mauvais rois, puis un bon roi, puis un mauvais roi qui arrive, voilà. Et en fait, si on fait un peu la liste, vous avez sous vos yeux Jotham, qu'on va voir ce soir, qui est un bon roi, à qui succède Akaz, et Akaz, c'est un mauvais roi. Après, on a un retour à Dieu avec le roi Ézéchias, un retour à Dieu extraordinaire. Et puis un retour à l'idolâtrie avec Manassé et Amon que vous avez sous les yeux. Après, on a un retour à Dieu avec Josias. Et après, il y a une succession de rois qui ne règnent d'ailleurs pas très longtemps. Et là, c'est vraiment la chute jusqu'à la fin justement de cette chronologie. Donc ce soir, ce que l'on va voir... On va voir les 3 rois, Jotham, Akaz et Ézéchias. On va survoler leur vie. Le but, hein, c'est pas de voir chaque aspect de leur vie, mais de retenir une ou deux idées principales afin qu'on puisse bien comprendre l'ensemble de la royauté. Alors Jotham, si vous êtes en 2 Chroniques chapitre 27, on peut lire le verset 26, ça résume sa vie. Le verset 6, pardonnez-moi. 2 Chroniques, chapitre 27, verset 6, il est écrit « Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. » Voilà. Ça a été un bon roi. Comme son père, il était un roi puissant. Comme son père, il était un roi puissant parce que lui-même s'est affermi dans ce qu'on appelle dans les voies de l'Éternel, c'est-à-dire dans une bonne conduite, dans une bonne rigueur, dans une obéissance au commandement de Dieu. Et à la différence de son père, c'est qu'il n'y a pas de mais, il ne sait pas, son cœur ne s'est pas élevé pour sa perte. Donc Jotham, ça pourrait vraiment être le résumé de sa vie. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses propres voies, sa propre vie devant l'Éternel. Amen. Donc ce fut un bon roi. Et puis, Jotham a un fils qui malheureusement ne fut pas aussi noble et aussi intelligent que son père. Comme quoi on peut avoir être un bon père et avoir des enfants qui ne font pas la voix de leur père. Alors là, on va lire un peu plus longuement au chapitre 28. On va lire les 4 premiers versets. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David, son père. Comprenez que quand il est dit David, son père, c'est pas le père direct, hein, c'est le descendant. Voilà. Mais David fait partie des rois. Vous vous rappelez, David, c'était le cœur qui était désiré par Dieu. C'était un homme vraiment, c'était une référence de royauté. Et donc quand on dit il n'a pas été comme son père, David, c'est qu'il n'avait pas été illustre comme son patriarche, comme son référent, quoi. Donc, relisons le verset 2. Il marcha dans les voies des rois d'Israël. Je vous rappelle que les rois d'Israël étaient idolâtres, mais on verra ça la semaine prochaine. Et même, il fit des images en métal fondu pour les Baal. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Himon. Et il fit, écoutez cette expression, il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux et sur les collines et sous tout arbre vert. En fait, ce qu'il faut comprendre de cette situation, c'est que Akaz s'était pas seulement détourné de l'Éternel, mais il avait remplacé le culte de l'Éternel à un dieu qui était très connu de l'époque, qui s'appelait Baal. Et Baal, avec d'autres dieux, réclamait des sacrifices d'enfants. Et quand il est écrit « Il fit passer ses fils » par le feu, c'est que Akaz a pris ses enfants et les a offerts brûlés à cette idole. Vous voyez, l'abomination, et c'est d'où l'expression, l'abomination. Akaz a été un de ces rois qui ont amené vraiment l'horreur sur Juda. Alors vous verrez dans l'anecdote, oui, c'est une des anecdotes des horreurs qu'il a faites. Il est connu, Akaz, pour avoir transformé également l'aménagement du temple de Dieu. Rappelez-vous, le temple de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Moïse. C'est Moïse qui a reçu la révélation. Il a donné ses instructions. Ses instructions, David les a reçues également pour construire le temple avec des ustensiles. Chaque élément qu'il y avait dans le temple était le fruit de la révélation que Dieu avait donnée à ses hommes. Et Akaz, lui, un jour, il va en voyage, il va en Assyrie. Il va justement dans le temple de Baal, et là, il voit un bel hôtel, un bon ornement religieux. Il dit « Ah bah, moi, je veux la même à la maison. » Et il va remplacer l'hôtel qu'il y avait dans le temple de Jérusalem par un autre hôtel, un autre monument religieux. Donc vraiment, Akaz, c'est vraiment l'homme de misère spirituelle. Et puis quand vous lirez la suite du chapitre, vous verrez que les conséquences sont toujours les mêmes. Toujours. On voit qu'avant, Jotham a été puissant parce que lui, il a cherché la face de Dieu. Et bien Akaz, lui, ben, pendant son règne, c'est des conflits, c'est des guerres, c'est les larmes. Il y a les avertissements des prophètes qui préviennent, qui disent « Non !» Mais lui, il continue dans sa mauvaise voie. C'est en ce temps-là qu'il y a le prophète Ésaïe qui prêche. Voilà, Ésaïe, c'est sous le règne d'Akaz. Et puis un peuple qui souffre parce que le pays de Juda va être investi par les armées étrangères. Et vous savez comment c'est ? Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Et là, c'est encore le peuple qui trinque, qui connaîtra des déportations, des souffrances, etc. Donc comprenons bien qu'au temps d'Akaz, le culte qui est apporté normalement au vrai Dieu, au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est remplacé par toutes ces fausses religions, et notamment par le culte de Baal. Okay ? Donc ça, il faut comprendre que c'est officiellement qu'il y a un basculement spirituel qui a été produit, avec ce mélange de mensonges et d'horreur. Et puis, le successeur à Akaz, c'est Ézéchias. Et ce qui est extraordinaire, c'est que autant on peut être un bon roi et avoir des sales gamins, et autant on peut être un sale papa et avoir un fils spirituel. Ça aussi, c'est une des grandes leçons. C'est qu'on peut être aussi un bon papa et avoir de bons enfants, et être un mauvais papa et avoir des mauvais enfants. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité que nous devons avoir. Nous devons donner le meilleur, nous, en tant que parents. Mais il y aura toujours le choix individuel de chaque enfant. Et Ézéchias fera un bon choix. Donc là, on arrive au chapitre 29. Et là, je vous invite à lire les 11 premiers versets. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija. Elle était fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez cette expression, et c'est rare. Entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Je vous rappelle que cette maison de l'Éternel a été souillée, transformée, bafouée. Lui, la première chose qu'il fait, il ouvre les portes et il les répare. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites alors qu'ils avaient été exclus du service. Qu'il l'assembla dans la place orientale et il leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et ils ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont point offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble et à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention, et là c'est le roi qui parle, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être des serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Et je vous laisserai la liste d'Ézéchias continue là sur 3-4 chapitres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Ézéchias va restaurer un vrai culte à l'Éternel. La plupart des autres rois, ils aimaient le Seigneur, mais à côté, ils avaient des fragilités, des faiblesses. Alors qu'Ézéchias, lui, il a vraiment un cœur tout entier à l'Éternel. Il restaure les sacrifices, il restaure le temple. Alors, ce qui est intéressant à découvrir, c'est que donc il appelle là tous les sacrificateurs, il appelle tous les lévites à reprendre leur service. Mais il va pas se contenter de lui, il va pas se contenter de réinstaurer un service normal dans le temple. Il va inviter tout le peuple, tout Juda, à se tourner, à revenir à l'Éternel. Et ce qui est amusant, c'est que tous ne vont pas accepter. On peut lire une petite anecdote là au chapitre 30, versets 9 et 10. Alors il envoie des hommes dans toutes les villes pour appeler le peuple à la repentance, au retour à Dieu. Lisons par exemple à partir du verset 9. Si vous revenez à l'Éternel, donc ça c'est le message que Ézéchias avait demandé d'être dit dans les villes. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans le pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne se détournera pas, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Écoutez le verset 10. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville pour apporter ce beau message dans le pays d'Éphraïm, de Manassé et jusqu'à Zébulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Incroyable, hein ? Enfin, incroyable. C'est malheureusement ce qui arrive souvent. Parce que l'ensemble du peuple de Juda s'était laissé aller à ses bals, à ses prostitutions spirituelles. Le peuple donc avait subi les conséquences de se détourner du Seigneur. Donc c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure que le peuple était dans la souffrance, parce qu'il y avait les meurtrissures, parce qu'il y avait les guerres qui faisaient des kidnappings, quoi, Enfin, il faisait des prisonniers, pardonnez-moi, il faisait des prisonniers. Donc Ézéchias savait que dans Juda, il y avait des familles qui étaient dans le désespoir. Et il les appelait, si vous revenez à l'Éternel, vous verrez, le Seigneur nous ramènera nos enfants. Il vous ramènera vos fils. Et il y a vraiment là un appel à la repentance pour que la bénédiction revienne. Et puis il y a des gens incrédules, moqueurs, qui ouais, tu dis ça, mais c'est terrible, hein. Cet endurcissement, cette incrédulité. Mais malgré tout, la plupart du peuple de Juda suivra Ézéchias dans cette démarche spirituelle. Il y aura un élan de repentance. Et puis, comme il y a des conséquences quand on se détourne de l'Éternel, mais il y a aussi des conséquences quand on est fidèle au Seigneur. Et là, vous verrez les conséquences bénies. Donc, non seulement il y a un vrai culte qui est établi, il est parlé d'une joie, il est même parlé que leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Ça, c'est chapitre 30, le dernier verset de ce chapitre. Donc, on sent qu'il y a une atmosphère spirituelle qui est là, portée par les sacrificateurs, portée par Ézéchias, portée par le peuple. Et même la Bible dit que ces prières sont montées jusque dans la présence de Dieu. C'est dire qu'il y a une bénédiction spirituelle, une approbation spirituelle de Dieu. Quand on lit la suite, il y a une bénédiction matérielle. Il y a la paix qui revient dans le pays. Il y a l'abondance qui revient dans le pays. Vous verrez qu'il est plusieurs fois parlé de la joie du peuple. Voilà, ça c'est véritablement les bénédictions qu'il y a lorsque l'homme revient à l'Éternel. Vous verrez également que ce n'est pas parce que Ézéchias a été un homme qui s'est résolument tourné vers le Seigneur, qui a réformé de manière positive l'élan spirituel et social du pays, que Ézéchias n'a pas connu des épreuves et des difficultés. Vous verrez que Ézéchias a connu des épreuves, il a même été atteint d'une maladie dont il a failli mourir. Et puis, il y a eu la grâce de Dieu. Ézéchias a été même éprouvé par le Seigneur. À un moment, il nous est dit que le Seigneur l'a abandonné pour sonder son cœur. Alors, comprenons cette expression. Est-ce que Dieu nous abandonne ? Non. Il ne nous abandonne pas. Mais il a comme laissé à lui-même. Certainement qu'Ézéchias a senti un moment dans sa vie que « Mais Seigneur, t'es plus là !» Ça nous arrive, n'est-ce pas ? Et c'est dans ces expériences-là qui nous rassurent aussi. Parce qu'on voit qu'Ézéchias a fait plein de choses pour le Seigneur. On pourrait dire, ben, lui, il était toujours connecté au Seigneur. Ben non, il dit que le Seigneur l'abandonna pour éprouver ce qu'il y aurait dans son cœur. Et il y a des moments dans nos vies où, effectivement, on pourrait croire, sembler que le Seigneur est loin, que c'est plus pareil, que qu'est-ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le Seigneur est en sens, il nous lève là. Comme devant un choix, comme devant une sorte de vide, afin de voir comment nous allons réagir. Et donc, Ézéchias a connu ces moments-là pour éprouver, pour sonder ce qu'il a dans son cœur. La Bible est honnête, et c'est pour ça que la Bible n'a pas peur de nous montrer aussi les erreurs, et Ézéchias a fait des erreurs. Lui aussi, son cœur à un moment s'est élevé. Mais Dieu connaît notre nature. Et si la parole de Dieu a un témoignage très favorable avec Ézéchias, c'est pas parce qu'il était sans faute. Il n'y a que Jésus qui était sans faute et sans péché. Mais on voit que même quand Ézéchias fait des erreurs, il se repent. Il se repent. Il s'humilie devant le Seigneur. Et il revient à Dieu. Et en fait, on pourrait lire la conclusion d'Ézéchias au chapitre 31 et au verset 20. 31, verset 20, et on terminera sur ce verset-là. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Que notre vie puisse avoir ce témoignage. Que le jour où il y aura notre inhumation, on puisse lire ce passage et dire voilà, Willy, Régine, David, Benoît, ce fut un homme qui a fait tout ce qui est bien. Il a fait tout ce qui est droit. Il a fait tout ce qui est vrai devant son Dieu. Il a agi de tout son cœur. Il a réussi parce qu'il a recherché son Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait, comme c'est écrit, il l'a fait pour le service de la maison de Dieu et pour la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Voilà une belle direction de vie. Et quand on s'occupe des affaires du Père, le Père s'occupe de nos affaires. Amen. Voilà ces exemples et cette alternance de bons, de mauvais rois. Et ça aussi, ça nous parle. Parce que c'est pas parce que on a eu des mauvais exemples qu'on est obligé de refaire les mauvais exemples. Et c'est pas parce que nos parents ont été des bons qu'on est forcément des bons. Nous aussi, nous avons à faire notre part de responsabilité et à agir tel que Ézéchias a pu agir. Amen. Il ne nous laissera plus que deux rencontres sur les rois. C'est bizarre parce qu'il y a encore plein de rois à voir, mais vous allez voir qu'effectivement, après ça va vite. Et vous avez vu, en fait, j'ai voulu m'arrêter là ce soir parce que là on est dans le règne d'Ézéchias, d'accord, en Juda. Ben, si vous regardez de l'autre côté, au milieu du roi d'Ézéchias, ben, on s'aperçoit que, oh, il n'y a plus de chronologie. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, vous comprenez que quand une chronologie s'arrête là, c'est que... C'est que c'est fini, quoi. Et donc, la semaine prochaine, on va justement s'arrêter à ce niveau-là de l'histoire. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette succession de rois en Israël. Et après, on finira avec les derniers rois de Juda. Amen.